La radiodiffusion française vous invite à écouter.
La banalise est sa question fondamentale, mais que faisons-nous ici ?
Le train s'est arrêté, je suppose à la suite d'une intervention auprès du chef de train, ainsi qu'il est indiqué dans le fascicule, dans les cahiers de banalise. J'ai descendu en même temps que les marches, en même temps que d'autres invités. Là, j'ai été accueilli par les organisateurs. J'ai signé le cahier d'émargement, puis on vient de me donner un badge.
C'est une cérémonie émouvante.
Ah, je suis encore un peu sous le choc, oui.
C'est la première fois que vous venez en congrès de banalise, en garde fade ?
C'est la première fois et ça fait 4 ans que je développe la grande interrogation, y aller ou ne pas y aller. Et là, j'ai sauté le pas, c'est formidable.
La société du spectacle battait déjà son plein et les banalistes offraient, eux, leur première expérimentation en 1982. Il s'agissait de se retrouver, alors qu'on ne se connaissait pas, sur le quai d'une halte ferroviaire facultative, au fond d'un pays dont quasi personne ne connaissait le nom, la Combraille, du latin combros, obstacle, difficulté. Et là, d'interroger le temps. Le plus étrange dans le temps, c'est qu'il faut le passer. Mais à quoi ? Que faisons-nous ici ? Au temps de l'accélération, les banalistes invités à considérer l'envers des événements ou supposés-tels qui se bousculent en chaos. C'est souvent en retournant le vêtement que nous portons que nous en comprenons la structure. La banalise a vécu 10 ans en garde et fade, s'est étendue jusqu'à usage pour des salutations, jusqu'à la loupe pour des entretiens, jusqu'à Sainte-Honorine des pertes dans le Calvados pour des rencontres. Elle a passé la frontière belge, opéré une percée du côté des dissidents de Prague. Il faut bien reconnaître cependant qu'elle a disparu avant même d'être connue. Pourtant, elle mérite de faire entendre sa petite musique incertaine dans le tumulte de la rentrée.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Yves Elias. Bonjour Yves Elias.
Bonjour.
On redécouvre la banalise, je le dis, parce que un grand livre de 508 pages que nous n'avons pas pesé a été édité avec beaucoup de soin aux éditions du Jeu de la Règle. Jeu de la Règle. C'est intéressant. C'est un jeu, la banalise. C'est pas une plaisanterie. Et vous êtes un des deux, je vais pas dire fondateur, fomenteur, je sais pas si ça existe, de la banalise.
Un des deux, avec Pierre Bazanté, un des deux organisateurs de ce qui a été la manifestation un peu emblématique et centrale de la banalise, le congrès ordinaire de banalise.
Qui avait lieu au FAD. Alors, le nom, vous n'en avez pas vu tout de suite, l'originalité et le piquant, mais vous aviez cherché sur la carte Michelin, au fond de la Combrousse, je veux dire, la Combraille, du bas latin, Combrousse, un endroit qui pourrait être équipé d'une halte ferroviaire et d'un hôtel.
Voilà, nous avions l'idée d'un dispositif, comme ça, qui consisterait à inviter des gens dans un endroit un peu éloigné, en tout cas, de l'agitation métropolitaine, et où il n'y aurait pas, en tout cas sur place, et pas immédiatement, et ou pas facilement, les distractions habituelles.
Et nous étions décidés à ne plus être dupes des moyens par lesquels nous trompions l'ennui. Et alors là, on allait être face à l'ennui, au viaduc et à la gare des fades.
On pouvait être confronté au risque de l'ennui. Ça ne veut pas dire qu'on n'allait pas là-bas pour s'ennuyer. C'était pas l'objet de la proposition. C'était, de prendre un risque de ne pas se satisfaire d'un certain nombre de distractions habituelles, et en prenant ce risque, l'ennui pouvait advenir.
Alors, surprise quand a lieu la première réunion, qui ne va d'ailleurs rallier que les deux organisateurs, Bazanté et vous, du personnel de l'hôtel de la gare, qui vous dit, c'est le début de la saison, il n'y a personne. Et alors, comme vous êtes des critiques du monde moderne marchand, cet hôtel est quand même idéal pour vous, parce qu'il refuse toute trivialité commerciale.
Ah oui, c'était un hôtel qui s'appelait l'hôtel de la gare, qui était situé donc en face de la petite gare des Fades, une halte facultative sur une ligne extrêmement secondaire reliant Montluçon à Clermont-Ferrand. Alors, et donc, ce petit hôtel de la gare, qui était tenu par des dames déjà assez âgées, se tenait vraiment à l'écart des logiques marchandes, c'est-à-dire, en gros, pour trouver une formule, on pourrait dire que le client n'y était pas roi. Alors, il fallait se plier strictement aux horaires de l'établissement, et il y avait un certain nombre, disons, de produits qu'on ne pouvait pas espérer y trouver.
Le whisky, non.
Le whisky, par exemple.
Par contre, le Châteauguay, le Saint-Pourçain, qui en est vertu.
Il y avait des, quand même quelques vins.
Et le soir, verveine du Velay.
Et la verveine du Velay.
Dites-moi, les deux premiers congrès, 82-83, eh ben, vous attendez à la Micheline de 6h48, à la Micheline de 7h30, à la Micheline de 13h15, à la Micheline de 13h41, qui est celle de 7h13 qui a fait l'aller-retour, et à celle de 17h56, personne ne vient. Et puis, peu à peu, la pelote va s'arrondir, on va voir des gendarmes s'interroger sur votre réunion, l'adjoint au maire demander si c'est un congrès ferroviaire, et FR3.
Ils vont dans le tunnel, traversent le viaduc, ils vont à la gare, ils parlent.
Vous l'avez compris, perdre son temps est l'unique préoccupation du banaliste. Mais pour qu'il ne se pose pas trop la question cruciale, que suis-je donc venu faire ici, on l'oblige à au moins une visite du viaduc et du tunnel. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le maigre programme qui est proposé?
La rigueur des organisateurs à le maintenir maigre.
Le congrès ordinaire de banaliste n'est pas un week-end qu'on passe en Auvergne, un week-end original. Non, c'est absolument pas ça, c'est, je crois.
Et c'est vrai qu'il n'avait pas trop l'air de s'ennuyer entre la chasse aux clous de traverse, objet de toutes les convoitises, et la pose de pièces sur les rails en vue d'écrasement avant le passage de la Micheline. Un banaliste disait, l'étonnant dans le temps, c'est qu'il faut le passer.
Les pièces, c'était à l'époque des francs qu'on met sur les rails pour rendre l'argent à sa platitude. On n'a peut-être pas bien entendu la conclusion du reportage. Je répète cette maxime qui a été dite. L'étonnant dans le temps, c'est qu'il faut le passer. Excellente formule pour la rentrée.
Oui, ça c'est une actualité universelle. Je pense que c'est un étonnement qui n'est pas prêt de s'éteindre. Et pour situer les choses, effectivement, donc nous avons eu cette idée de faire une proposition différente pour passer le temps, une proposition critique, une invitation à, au fond, une forme de critique de notre emploi du temps. Hein, nous passons notre temps à faire des choses supposées intéressantes ou en tout cas à répondre à différentes injonctions qui nous disent d'une certaine manière de rentabiliser le temps, quelle que soit la forme de rentabilité, pas simplement économique, mais culturelle, intellectuelle, etc. Et donc nous, on s'est dit, on va essayer de se déplacer par rapport à ça et puis de faire une invitation, inviter les gens donc à passer du temps qui n'est pas prédéfini. Et c'est donc l'idée de ce congrès de banalistes, qui est un congrès sans objet.
Oui, mais enfin, pas sans activité. Alors, vous explorez le tunnel, c'était l'époque où les règles de sécurité n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant. Vous tenez banquet, vous faites des toasts que vous rédigez soigneusement. Il y a tout un cérémonial. C'est le même cérémonial, il faut qu'on dise quand même un mot de ce que vous faites le reste de l'année, à l'époque, que vous observez en produisant une thèse sur le cérémonial de l'État. Oui. On voit ça à la télé tout le temps, les portières qui s'ouvrent, l'homme d'État qui sort, l'huissier avec son parapluie quand il a plu comme ce matin, etc.
Et effectivement, la visibilité de l'événement, comme par exemple une visite de chef d'État, nous est donnée par toutes ces formes. Et donc, dans ce congrès de banalise, même s'il n'y avait pas d'objet, il y avait quand même des formes qui correspondaient en gros d'ailleurs aux formes de visibilité de l'événement politique à son niveau le plus institué. Donc c'était quand même un
critique de l'événement politique que vous faisiez là, hein, implicitement. Et en même temps, vous teniez des archives, parce que la banalise n'a rien produit, n'a agi sur rien. Et elle avait une chancellerie.
Elle n'a pas produit de manifeste, elle n'a pas produit de texte théorique destiné à être diffusé, elle n'a pas publié. Ces publications que nous avions étaient en quelque sorte internes. Mais il y avait une production, il y avait une production du discours, il y avait une production de pièces diverses, production d'archives, et tout cela faisait l'objet effectivement d'une certaine organisation.
Ce qui permet maintenant à Thierry Kerseo et à Marie-Liès Claverolle, qui ont rassemblé tous ces documents, de produire Éléments de banalistes, un livre assez étonnant quand même, de 508 pages, certains vont dire sur rien.
C'est un livre où il n'y a pas de commentaires sur la banalise, à part une petite introduction que nous avons faite avec Pierre Bazanté pour mettre en perspective un peu l'affaire. Ce sont des documents en l'état brut, mais très bien ordonnés par Kerseo et Claverolle.
Pour les éditions Le Jeu de la Règle, j'insiste sur le mot jeu, c'était pas une plaisanterie, c'était un jeu qui s'auto-analysait, qui s'auto-engendrait, qui était parfaitement codifié à l'époque, l'État lui-même. Revenons maintenant au climat des années 1981-82, le départ du premier septennat de François Mitterrand. Se livrait lui aussi, avec Jack Lang, à de nouveaux jeux, la fête de la musique.
Il y a aujourd'hui 5 millions de Français qui pratiquent la musique, en amateur ou en professionnel. 5 millions de Français, c'est beaucoup. Et si le temps est avec nous, je crois que lundi soir, la démonstration sera faite que notre pays est un peuple de musiciens. Et puis, au-delà des questions vraiment techniques, je dirais que si cette fête est une réussite, comme je l'espère, ce sera un encouragement pour nous, le gouvernement, pour l'ensemble des responsables, des élus, de poursuivre la démocratisation de la musique. Aujourd'hui encore, malheureusement, trop d'enfants français, plusieurs dizaines de milliers, sont privés du droit à l'apprentissage de la musique. Et nous voudrions que, pour les enfants qui le veulent, apprendre la musique, ce soit une possibilité aisément accessible.
Est-ce que vous êtes prêts à déconner? Est-ce que vous êtes prêts à vous balader dans les rues de Paris? Je vois des visages pleins de couleurs, je vois des gens qui sourient, je vois que la vie attend son heure et quand elle arrive elle explose, car c'est la vie incomprimable comme l'envie de pisser. Ouais. I said hold tight, hold tight, pull the eggs, I can want some seafood in my mouth, shrimp and rice. Shrimp and rice, I like horse and lobster, like I make a big fish. When I come home from work and I get my favorite dish. Hold tight, hold tight, hold tight. Booty, I can want some seafood, mama. Shrimp and rice, that'll be nice. Vas-y, envoie ton solo.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
82 juin, la haute époque de l'alliance de Jacques Lang et de Jacques Higelin. On l'entendait au piano accompagnant Higelin, Philippe Benoît, mais on a vu cette année-là, au clavier, le ministre de la Culture. Des centaines de milliers de Français, pardon, 5 millions de Français, on n'est jamais trop pour Jacques Lang. 32 invitations au premier congrès de banalise de 1982. Parlons de ce mouvement étrange qui revient un peu en lumière aujourd'hui, dont vous avez été l'un des deux animateurs, Yves Elias. C'était une critique de la société festive aussi que votre démarche.
Pas en soi, c'est pas une critique de la fête, peut-être certaines formes de fête trop prévisibles, mais... c'est plutôt une critique de la mise en spectacle systématique de tout. Hein. Quand on a lancé cette idée de congrès, c'est par hasard, quasiment le même jour que la première fête de la musique. C'est vrai que on réagit à une montée en puissance de ce que Debord appelait la société du spectacle, et on constate au début des années 80 que ces thèses, en quelque sorte, se vérifient à tous les niveaux.
En même temps, il n'y a pas de banal en soi, vous insistez sur cette idée. Le banal, c'est, comment dire, je sais pas, l'envers de l'extraordinaire. Et puis le banal peut être attiré lui-même par l'extraordinaire. Il se trouve que peu à peu, après France 3, après France Culture, après surtout la visite de Libération, eh ben, les congrès de banalis connaissent une augmentation extraordinaire de leur fréquentation, jusqu'à 284% autour du 6e congrès. Ce sont pas encore les chiffres, évidemment, de ceux du Parti communiste de Georges Marchais, alors en action.
Notre 20e congrès aura constitué un événement exceptionnel. C'est qu'il s'est tenu dans une période elle-même exceptionnelle. Il a été le congrès de la bataille des communistes.
Mesdames, messieurs les congressistes, mesdames, messieurs, au nom de la banalise, soyez remerciés. Je voudrais d'abord saluer ceux qui, parmi vous, sont déjà des congressistes confirmés, voire chevronnés, surmontant parfois les lourdes épreuves qu'implique la prise du risque de l'ennui.
Notre 21e congrès extraordinaire s'achève. S'il fallait le caractériser d'un mot, nous dirions qu'il a été le congrès de l'optimisme.
Aussi faut-il maintenant saluer l'audace de ceux qui, pour la première fois, sont venus contribuer à nos travaux. En renforçant les effectifs de notre Assemblée Générale, ils ont fait monter un potentiel d'ennui déjà très élevé l'an passé. Grâce à leur apport, ce 6e congrès promet d'être celui de la vigilance, car plus que jamais cette année, nous aurons à tenir bon pour résister aux assauts de la passivité grégaire et aux enlisements de l'amorphisme mondain.
Il a tenu Georges Marchais jusqu'au 28e congrès, vous pas, hein. On verra dans quelles circonstances. C'est étrange comme le temps est représenté, si on continue la critique de l'information spectacle, comme étant un viaduc entre deux congrès. Alors, ou un viaduc entre deux universités d'été, et puis soudain, quand il n'y a plus d'université d'été du Parti Socialiste, s'ouvre un vide vertigineux.
Là, il n'y avait pas de vide entre deux congrès de banalise. Hein. C'était le congrès, c'est un vrai congrès, c'était le moment fort de l'année pour ceux qui participaient à ce mouvement, mais entre-temps, entre ces deux échéances, il y avait différentes activités banalitiques.
Vous parlez comme les politiques, vous dites, on diversifiait les actions, on était présents sur le plus grand nombre de terrains possible.
Voilà.
Alors, par exemple, Sainte-Honorine-des-Pertes. C'est où ça, c'est quoi?
Sainte-Honorine-des-Pertes, ça c'est un peu un jeu de mots, hein, puisque...
Mais c'est réel.
Ça existe, Sainte-Honorine-des-Pertes, c'est à proximité de Bayeux.
Dans le Calvados.
Dans le Calvados. Donc, c'est un simple jeu de mots. Les banalistes invitaient à travers leur congrès, à prendre aussi le risque de perdre son temps, parce qu'il n'y avait pas d'objet. Donc il y avait ce nom merveilleux de Sainte-Honorine-des-Pertes qui faisait écho, en quelque sorte.
Et à usage, c'est où usage? Qu'est-ce que vous faisiez?
Alors, les usages, c'est un lieu dit extrêmement perdu dans un paysage de plaine situé, je dirais, du côté d'Évreux, dans l'Eure ou l'Eure-et-Loire.
Et là, vous vous livriez à des salutations.
C'était une simple rencontre dont avait rendu compte France Inter, une simple rencontre dans ce paysage dévasté avec des corbeaux, une poignée de main entre deux groupes, les banalistes et un autre groupe. Et nous avons, comme c'était au lieu le dit les usages, nous avions appelé ça les salutations d'usage.
Parce que les radios se sont intéressées à vous. Hein. Un jour au congrès fondateur, enfin au lieu fondateur, lors d'un congrès des FAD, le téléphone a sonné, c'était peut-être encore un téléphone manuel, et il y avait Pierre Bouteiller au bout de la ligne qui s'inquiétait de ce qui se passait
chez vous. Pierre Bouteiller était un des pionniers parmi de...
C'est intéressant ces collisions. de l'information traditionnelle et de la critique de l'information dont vous êtes porteur. Vous vous êtes dit aussi un moment que vous pourriez prendre, on va revenir à Georges Marchais, au climat politique du temps, parler du premier septennat de Mitterrand, un tour plus politique, et François Mitterrand, décevant une partie de son électorat en parlant de la rigueur, a ouvert des perspectives européennes en disant que ça allait être le nouvel horizon de la France. Et vous, vous êtes intéressé à ce qui se passait dans l'Europe de l'Est, qui commençait à connaître son dégel.
Alors oui, ça c'est venu de lecture que j'avais faite chez un ami, un tchèque, Peter Kral, qui avait chez lui toute une littérature peu connue de et traduite en français de gens qu'on appelait à l'époque des dissidents, et à la lecture de ce qu'ils racontaient, de leurs conditions et de leur manière de voir le monde, j'ai eu l'intuition que nous avions des points communs avec eux, donc est venue l'idée de faire une petite expérience banalitique, ou du moins une exploration banalitique.
Le rendez-vous étant donné au terminus d'un tram dans une banlieue sinistre de Prague, fallait-il encore arriver jusqu'à Prague? Et là, le banaliste est rusé, il emporte l'humanité sur la plage arrière du véhicule.
Alors, encore plus rusé, il ne met pas le journal L'Humanité en évidence. Il pose le journal L'Humanité sur le siège arrière du véhicule avec un imperméable par-dessus, et il attend que le préposé au contrôle des frontières, et c'était une vraie frontière en ce milieu des années 80, que le préposé au contrôle des frontières découvre par lui-même le journal L'Humanité, ce qui en général mettait un terme aux procédures de contrôle.
Dites-moi, un voyageur malin comme l'était le banaliste découvrait de la Tchécoslovaquie très vite des choses importantes, rien qu'en se posant la question de son réservoir, le réservoir du véhicule.
La vie quotidienne était compliquée à Prague en 1985-86, et il fallait bien anticiper les choses. Par exemple, nous n'avions pas du tout anticipé le fait que nous étions allés là-bas dans un véhicule diesel, et que, en fait, le gazole n'était pas en vente libre en Tchécoslovaquie, c'est-à-dire c'était toute une procédure pour l'obtenir, et donc
Mais heureusement, il y avait des cheminots.
Heureusement, il y avait des banalistes cheminots qui ont fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qui ont détourné le fioul du chemin de fer tchèque pour nous permettre de sortir de la Tchécoslovaquie, de faire le voyage retour.
C'est toujours du ferroviaire, le mouvement banaliste. 10 ans ont passé, au bout de 10 ans de congrès, vous aviez prévu ce laps de temps, il était venu le moment de s'interroger.
Les organisateurs eux-mêmes l'ont envisagé dès les origines. En effet, ne sachant eux-mêmes s'ils étaient là pour des raisons majeures, fruit de quelques magistrales ressaisissements critiques, ou par le simple fait de leur indigence intellectuelle ou morale, ils décidèrent, au terme du premier congrès, de mener l'expérience pendant au moins 10 ans, dans l'espoir d'y voir plus clair. Alors, fort de notre acquis, nous aurons à choisir entre deux perspectives également exaltantes. Ou bien, le congrès sera devenu une manifestation comme une autre de la connerie pure. Et les banalistes auront à cœur de ne pas le reconduire pour une 11e fois. Ou bien, les choses étant demeurées inéclaircies, nous pourrons reprendre du service pour une deuxième décennie sous les formes qui conviendront au temps nouveau.
Et qu'on n'a pas le temps de raconter dans le détail jusqu'à ce que le mouvement s'éteigne. Alors pour renaître avec ce grand panorama des éditions du Jeu de la Règle que je citais, mais il y avait eu un grand document dont est extrait ce discours que vous avez prononcé vous-même, Yves Elias. Il y avait déjà eu un grand document sur la banalité, c'est le film de Patrick Viret. Est-ce que vous changeriez votre voiture contre 2 Trabants ? Deux questions pour finir, une de géographie, une d'histoire. Géographie. La banalise, c'est la réflexion sur l'envers de la France, de la performance.
Oui, elle a plutôt eu tendance à explorer des zones délaissées.
Vous avez d'ailleurs, sur les Combrailles, une autre étymologie ou une autre formule à produire que celle que j'ai donnée au début de l'émission.
Oui, il y avait, parmi les banalistes qui fréquentaient le congrès de Fade, il y avait un humoriste qui a été connu jadis, qui s'appelle Schraz, et lui, il avait créé une radio là-bas qui s'appelait Les Combrailles, pourquoi pas nous ?
Qu'est-ce que c'est devenu le viaduc des Fades, la gare des Fades, l'hôtel de la gare ?
Tout est à l'abandon en ce qui concerne le ferroviaire, la ligne est fermée, le viaduc est inaccessible et en très mauvais état. La gare a été vendue, est devenue une petite résidence secondaire. L'hôtel de la gare est devenu...
On n'en parlera pas parce que la maison d'hôte qui a remplacé l'hôtel ne s'intéresse pas à votre histoire. Elle a vraiment tort. Elle serait dans la performance, elle s'y intéresserait. Et puis une question d'ordre historique. La banalise, c'est une réflexion sur l'événement tel qu'on nous le construit, ou le pseudo-événement tel qu'on nous le construit.
Oui.
Le Burkini, c'est peut-être un pseudo-événement. Ça a commencé par une affaire de soirée privée sur un lieu de la Côte d'Azur. Et maintenant, on s'étonne que le président des États-Unis ne réagisse pas à la question, alors que le secrétaire général de l'ONU l'a déjà fait.
Effectivement, je crois que la banalise est née aussi de cette conscience que nous vivions dans un environnement de plus en plus caractérisé par ce qu'on appelle des pseudo-événements, c'est-à-dire des événements qui sont construits pour être diffusé, pour alimenter l'actualité médiatique. Donc c'est vrai que c'est un petit peu pour tourner le dos à cela que nous avons fait cette invitation et cette proposition critique en 1982.
De l'art de scier la branche sur laquelle la marche de l'histoire est assise. C'est là ce que nous avons eu de meilleur, avez-vous dit? Ou bien c'est Pierre Bazantais qui l'a dit. C'est quand même une très belle aventure.
C'était une aventure, ne l'oublions pas, c'était une aventure collective. C'était pas une œuvre d'art personnelle.
Ça a concerné combien de personnes ? 100 ?
Au maximum.
Oui. Donc il fallait en parler absolument, parce que c'est révélateur. Merci à vous, Yves Elias. Maintenant, on va avoir une émission sérieuse. L'émission de Mathieu Vidard. Je salue d'abord... Valérie Astaray qui nous rejoint, Jacques Cigale a hélas quitté Radio France, c'est elle qui assure la réalisation de la marche dorénavant et à la technique Mehdi Fatah. Une fois ces remerciements faits, des félicitations, parce que vous allez présenter un événement, Mathieu Vidard,
ben
dans
oui.
La tête au carré.
Et pour une émission sérieuse, on a déjà une bouteille de champagne sur la table.
Mais alors c'est quoi un événement ?
Ben, c'est les 10 ans de l'émission quand même.
C'est un événement, c'est un anniversaire.
C'est notre événement à nous, voilà. Ouais. Alors pour ça, on a invité un spécialiste de vieillissement, histoire de nous accompagner, c'est Axel Kahn qui
Je
sera
avec
nous.
Je me suis même laissé dire que la banalise fournissant 508 pages sur un mouvement qui n'a pas eu d'influence, n'est-ce pas ? Vous qui avez une influence déterminante, vous consacrez un livre à la tête au carré plus mince.
Voilà, ben ça ce sera pour le mois d'octobre. Jean Lebrun, je vois que vous êtes bien renseigné.
Toutes ces annonces étant faites, voici maintenant le temps de l'annonce publicitaire.